RFI.
Couleur tropicale.
Couleur tropicale, c'est chaud.
Ça café.
Bon, tout bon. Couleur tropicale.
Couleur tropicale.
Ça va être incroyable.
Ouais. C'est l'émission. C'est la maison. Kirby.
Ouais, voilà.
Chut. Couleur.
Couleur tropicale. Oh, yeah. Allez, les yo.
Messieurs et dames, bien bonsoir. Voici Couleur tropicale.
Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente.
Couleur tropicale.
Tu montes, on monte. Tu descends, on descend. Tu plonges dans la rivière, on se noie ensemble.
L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Seule la lutte libère.
Une Afrique démembrée, lacérée, déchirée.
Toi-même tu...
Je vous aime.
Couleur tropicale avec Laetitia.
Mathieu Salabert, Médard Chablaoui, Annabelle Jogamandi, Laure Temperville et puis l'équipe de l'Institut français de Brazzaville, Alain Bassec, Guillaume Niaba Zila et Romaric Tella. Bonne arrivée la famille, toi-même tu... Nous sommes ici à l'Institut français donc de Brazzaville. C'est notre dernier jour dans la capitale congolaise. Demain, nous serons à Pointe-Noire. Et pour cette dernière émission, ici, nous allons donner la parole à la jeunesse congolaise. C'est la génération consciente qui va s'exprimer. Avec une thématique, l'Afrique, continent d'avenir pour sa jeunesse. Alors nous sommes tous tentés de dire oui, évidemment, mais... Et c'est autour du mais que nous allons débattre.
Génération consciente, génération causante. Une génération consciente, c'est une génération causante.
Des jeunes font de brillantes études à l'étranger et ne reviennent pas, alors que leur pays a besoin de ces talents. Des jeunes font leurs études ici, au Congo, et une fois diplômés, ne trouvent pas de travail. Et puis, il y a des jeunes qui réussissent et qui ont des ambitions extraordinaires pour eux et pour leur pays. Entre difficultés, réussites individuelles, rien finalement n'est si clair que ça. L'Afrique, un continent d'avenir pour sa jeunesse. Je vous pose la question. Qui souhaite répondre ?
Je suis William Koulou, étudiant à l'Université Marangwabi, faculté des sciences économiques.
Bonne arrivée, William.
Merci. Je pense que l'Afrique est potentiellement un continent d'avenir pour sa jeunesse. Si les autres pensent que l'Afrique est un continent où les opportunités arrivent, investissent, prennent et repartent, pourquoi pas que les jeunes pensent à trouver les solutions aux problèmes africains eux-mêmes? C'est dans cette mesure que la jeunesse africaine trouvera qu'il y a du potentiel, qu'il y a des rêves à réaliser en Afrique. Merci.
Alumni de la bourse du président Barack Obama.
Bravo.
Merci.
Et ça veut dire que c'est un ami du président Obama. Applaudissez-le, s'il vous plaît.
La jeunesse africaine, c'est l'énergie comme première ressource pour avancer. Donc pour moi, je crois fortement que l'Afrique a vraiment de l'avenir.
Est-ce que l'on ne crée de la richesse qu'avec des matières premières? Je vous poserai la question dans un instant, mais présentez-vous et on vous écoute.
Batola Osé, jeune lycéen. Je dirais tout premièrement que l'Afrique a bel et bien un potentiel immense, est une ressource inépuisable en ce qui concerne rien que sa jeunesse. Aujourd'hui, on voit toute cette jeunesse qui, par ses efforts, par sa volonté de faire ailleurs, est en train de produire des prouesses que tout le monde est en train de louer. Comme on le dit, là où demeurent les rêves, naissent les émotions. Et moi, j'y crois vraiment. Comme vous le dites, s'unir pour bâtir,
c'est grandir ensemble.
Je suis Thierry Ngana, jeune entrepreneur. L'Afrique est un continent d'avenir, non pas seulement pour sa jeunesse, mais pour le reste du monde, mais à condition qu'il y ait une nouvelle organisation de la société. Je pense que depuis l'indépendance, nous sommes allés avec une organisation qui ne facilite pas, on va dire, l'inclusion de l'ensemble des populations africaines dans le développement.
Merci beaucoup. Alors... Avant de poursuivre, puisque vous êtes deux quand même à avoir évoqué entre les matières premières, entre l'Afrique doit être un continent d'avenir, certes pour ses populations, pour sa jeunesse, mais aussi pour le reste du monde. On entend beaucoup depuis 5-6 ans L'Afrique est un continent d'avenir. Et j'aime à dire, je le disais sur une radio française, Europe 1 pour ne pas la nommer, il y a quelques semaines, je disais oui, mais l'Afrique doit être avant tout un continent d'avenir pour les Africains. C'est bien ça, et c'est bien là où est le problème, parce qu'on assiste à une sorte de troisième ruée vers l'Afrique. Alors après les périodes d'esclavage, de colonisation, on voit qu'aujourd'hui l'Asie, l'Europe est toujours présente et à nouveau revient en Afrique. On voit par exemple aussi l'action de la Turquie désormais sur l'Afrique. Donc tout le monde veut son bout d'Afrique. Et vous disiez très justement, vous parliez d'organisation, réorganiser les choses. Et sommes-nous capables ? Est-ce que vous êtes sur le continent capable aujourd'hui eh bien, de faire face à des pays qui sont extrêmement organisés en ce qui concerne le commerce ? C'est là aussi toute la question de l'organisation. Qui veut prendre la parole ?
Bonjour. Je m'appelle Fatou Kiridi Bangoura. Donc, la question justement du développement de l'Afrique concerne les Africains, certes, mais concerne le monde entier, dans le sens où on doit réussir à passer ce cap-là qui nous permet de passer outre nos conditions nationales à chacun pour faire ce continent-là. Lorsqu'on voit aujourd'hui les jeunes Africains, on se rend compte que on est tous ancrés dans nos petits territoires nationaux qui sont des héritages de la colonisation. Alors que nous avons des terres qui sont bien plus importantes que ces simples limites congolaises, camerounaises, guinéennes et autres. Notre territoire n'est pas un territoire national, mais c'est l'ensemble du continent dans lequel nous nous disposons. L'Afrique a toujours été un continent de fluidité entre les populations, de commerce, d'échanges, de politique, bien avant que l'Occident ne nous apporte cet héritage intellectuel qui, eux, ont conçu à leur manière et à la base de leur société à eux, mais qui, nous aussi, a été un sujet de réflexion dans nos populations. Nous avons la chaire de Kourou-Kanfouga en Afrique de l'Ouest qui a défini la cosmopolitanité, je ne sais pas si ça se dit comme ça,
oui.
De l'Africain dans son territoire, l'équivalence entre quelqu'un qui vient du Sud, du Nord, de l'Est et de l'Ouest par justement cette convergence de la culture. Je pense que les jeunes Africains doivent se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe actuellement. D'ici 20 ans, 30 ans, la plupart des métissages aussi seront des métissages transnationaux. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de fils d'une mère camerounaise et d'un père guinéen, d'un père congolais, d'une maman botswanéenne. Bref, il y aura ce nouveau métissage-là qui va donner une génération de jeunes Africains qui n'auront aucun scrupule à passer d'une frontière à l'autre pour vivre sur ce continent. Lorsqu'on pense l'Afrique, on est obligé et on doit se donner le devoir, je pense, à nous, jeunes Africains, de penser grand, de penser hors des sentiers battus de la politique moderne qui ne nous limite qu'à 50 ans. Mais notre héritage intellectuel et culturel africain est bien plus vieux que ça et est beaucoup plus progressiste que ce qu'on a pu connaître ces 50 dernières années. Donc je pense que l'éveil des consciences est primordial pour le développement de l'Afrique. Je pense aussi que nous devons repenser notre manière de penser en ayant confiance en ce que nous avons dans la tête, car ce cerveau-là est le même que celui dont disposent toutes les populations à travers le monde. Il y a un moment dans la jeunesse où l'on passe au stade d'adulte, et donc d'actif et d'ayant droit et aussi de devoir vis-à-vis de la société. Nous ne l'avons plus. Nous ne l'avons plus et cela fait de nous des éternels enfants. Même les adultes ont du mal à penser en termes de jeunes actifs adultes et en passer ce cap-là. Donc l'éveil des consciences est primordial et à ce sens-là, dans le sens authentique du terme. Donc à nos retours à cet héritage culturel que nous avons toujours eu et que nous gardons malgré nous.
Merci beaucoup Fatou. Dans votre exposé, il y a énormément d'éléments essentiels. Tout ce que vous avez dit, je ne retire pas une virgule à votre propos. Il y a des éléments importants, prise de conscience, c'est donc l'éducation, c'est donc les mentalités, l'évolution des mentalités, conscience de soi, estime de soi. Il y a tout ça dans ce que vous avez dit, et puis des choses extrêmement concrètes. Là encore, on en revient à l'organisation, on en revient à se penser africain, mais dans un ensemble mondial, et pas, comme certains le voudraient, vivre en rupture avec les autres, se renfermer sur nous-mêmes, comme si il y avait des vieilles rancœurs du passé trop présentes. Alors que le passé est le passé, il ne faut jamais l'oublier, mais il doit nous servir, comme disait Charanta Diop, à construire une grande civilisation humaine et ne pas sombrer dans la barbarie. Je vous demande vraiment d'applaudir très fort Fatou pour son propos.
va essayer d'entrer vraiment encore un petit peu plus dans le vif du sujet. Quelle est pour vous la première des richesses d'une nation?
Moi, c'est Brèche Opimbé, c'est la jeunesse.
D'accord.
C'est Josias Mounazemo, étudiant à la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université Mangwabi de Brazzaville. C'est sa population.
La première richesse, c'est l'être humain.
Bonjour Claudie.
Bonjour.
Claver, la première richesse pour nous, Africains, c'est la culture.
On commence à préciser les choses.
Moi, je pense que c'est la mentalité des peuples.
Pour moi, tu te rapproches.
Je me rapproche.
Je m'appelle Ibarra Kambo Nova, étudiant en première année à la faculté des sciences économiques de l'Université Mangwabi. C'est sa population et l'éducation.
Je suis Nancy Matunga, artiste musicienne de style tradit moderne. Je viens de Pointe-Noire.
Bonjour Nancy. On sera chez toi, hein, tu sais, demain.
Donc, concernant ce que vous venez de dire, je dirais que les premières richesses que nous avons en matière première, je pense que c'est l'agriculture pour pouvoir évoluer, pour que la jeunesse aille de l'avant.
Alors, peut-être le monsieur, il a l'air tellement déterminé à vouloir répondre. Je pense qu'il a la réponse, il a le truc, il dit « Claudie, mais laisse-moi répondre. Je vais te bluffer, le monde va m'écouter. »
Ismaël Doresh.
D'accord.
Bounyama.
J'ai peur de toi. Tu sais pourquoi?
Pourquoi?
Non mais ne m'agresse pas comme ça. Non, je te vois avec tes notes et je me dis que nous allons avoir droit à un discours. Ismaël, nous t'écoutons. Vas-y mon frère.
Moi je pense que la première richesse d'un pays...
Oui.
C'est politicien. Non, calmez-vous.
Attendez. Non, attendez. Laissez-le répondre.
Quand on a des politiciens conscients, vous verrez que le pays ira de l'avant.
D'accord.
Quand on prend un pays comme le Japon qui n'a pas de ressources minières, mais aujourd'hui sont devant la RDC, et pourtant la RDC a des ressources minières.
Ah. Donc. Alors, dans sa réponse, dans ce qu'il vient de dire, il y a du vrai.
Les politiciens.
Non. C'est pas cette partie-là qui me semble être la bonne partie. Tu peux t'asseoir si tu veux. Tu peux t'asseoir.
Je reviendrai. Hein.
Oui, tu reviendras, évidemment. On ne peut pas remettre son avenir entre les mains des autres. Vous le savez, depuis de nombreux mois, je vous le dis, vous êtes tous des leaders. Toutes et tous. Vous avez tous un pouvoir. La possibilité de changer votre vie, la vie de votre famille, de votre collectivité, de votre pays, et d'avoir des ambitions bien plus grandes que celles que l'on voudrait, comme ça, vous imposer. Vous êtes tous des leaders. Vous avez fait cette comparaison entre la RDC et le Japon. On pourrait faire la comparaison entre, par exemple, la Corée du Sud et le Burkina Faso, par exemple. Ces pays-là ont été à une époque aussi pauvres l'un que l'autre. Mais vous avez des femmes et des hommes qui ont une vision avec une éducation à marche forcée. La plus grande des richesses d'un pays, c'est l'intelligence de chaque individu et cette intelligence collective. Ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas la forêt, c'est la capacité d'un individu à créer de la richesse. Travailler sur l'éducation pour l'évolution des mentalités est quelque chose de primordial.
Je m'appelle Monsieur Otto Njambé-Verlin, manager de l'association Regard sur l'éducation en Afrique. Je suis le représentant de Regard sur l'éducation au Congo. Nous, dans Regard sur l'éducation, on dit ceci, investir dans le capital intellectuel.
Oui.
Si on investit sur un enfant enseigné est un homme gagné. Si un enfant n'est pas enseigné, un enfant n'est pas éduqué, on a des phénomènes qu'ici, on est en train de voir, les Kuluna. C'est dans le capital intellectuel que nous devons investir.
Merci. Applaudissez-le, s'il vous plaît. C'est important. Les femmes et les hommes qui s'engagent dans l'éducation... Sont pour moi des personnes qui forcent l'admiration parce qu'on n'est pas toujours récompensé des efforts qui sont les nôtres, mais ce sont des personnes qui ont une vision et une vision à très long terme. On va parler justement d'éducation. Aujourd'hui, il y a des difficultés au Congo et pas uniquement, un peu partout en Afrique, entre les années blanches, la grève des enseignants, puis des étudiants, parce qu'ils ne perçoivent pas leur bourse. Est-ce qu'au Congo, vous avez le sentiment que l'éducation est le parent pauvre?
Vous rendez-vous compte, ça fait 50 ans que nous sommes indépendants et nous n'avons qu'une seule université. On a l'habitude de dire, entre amis, les étudiants sont les plus pauvres parce que c'est des orphelins. En Afrique, les orphelins sont les plus pauvres. Vu que Marin Gwabi est mort, tous les étudiants de Marin Gwabi sont des orphelins. On espère. Voilà. Pourquoi l'éducation, c'est le parent pauvre? c'est dans l'éducation où on investit moins de budget. Ici au Congo, bon, je n'ai pas de chiffres exacts, mais ce n'est pas de mensonge, on le voit, on le constate. On investit plus dans l'armée que dans l'éducation. Les dirigeants... Et même la qualité de l'éducation que nous avons aujourd'hui, c'est une éducation qui ne répond pas à la norme. Moi, j'ai commencé à la fac de droit, j'ai quitté, je me suis formé moi-même par open source avec Internet. Parce que l'éducation d'aujourd'hui ne répond pas. Je prends un exemple simple, la faculté de droit au Congo. On a une seule faculté de droit pour tout le Congo. Donc les élèves de Pointe-Noire, de tous les départements. Et chaque année, nous formons plus de 3000 diplômés en droit pour quel poste. Donc c'est devenu une fabrique des chômeurs. On forme plus des chercheurs d'emploi que des créateurs d'emploi. Donc on est resté calqué au modèle du colon. Alors que le colon, au début, quand il a imposé ce modèle-là, c'était pour répondre à un besoin. Il avait besoin de cadres à l'immédiat. Je prends un exemple simple au Congo. Tous les élèves qui sont le lycée technique n'ont pas d'université après. Ils sont obligés d'aller à Kinshasa et aller ailleurs. Donc, ça veut dire que tous ceux qui font le lycée technique aujourd'hui n'ont pas d'avenir. Et ça n'interpelle personne. Et moi, ce qui m'écœure, c'est les étudiants, le comportement des étudiants. Lorsque la bourse ne passe pas, tout le monde proteste. Mais lorsque les étudiants sont dans les mauvaises conditions dans les amphis, personne ne parle. Comme Fat l'a dit, la jeunesse africaine d'aujourd'hui sort des sentiers battus par rapport à la première génération des communistes que nous avons eue. Nos aînés ont embrassé des philosophies qui n'étaient pas propres à notre culture, être capitaliste ou être communiste. Mais aujourd'hui, la jeunesse africaine, on en marre un peu de ces discours-là. On sort du tribalisme, on sort de ces sentiers battus-là. Aujourd'hui, on n'a qu'à regarder le Kenya, on peut regarder le Rwanda. Comment les jeunes sont en train de se trouver une autre voie, un autre chemin. Ils sont en train de se tracer un autre chemin eux-mêmes.
Merci. Je suis Mpemba Bassé-Bassé, journaliste animateur à Radio Congo.
Confrère.
Directeur de publication du journal Le Phare. Mon père est malafoutier, était malafoutier. Un jour, il est monté au palmier sans avoir une formation. Et puis, il a commencé à récolter le vin de palme. On en boit. Qui l'a enseigné au début? Je ne sais pas. Il y a quelques années, bien sûr, oui, l'enseignement ou le professeur, le maître de l'école avait simplement du beurre sur le pain. Mais aujourd'hui, on peut ajouter un peu de griffes de saucisson.
Pour vous, ça progresse.
C'est une vision, s'il vous plaît.
Oui, chacun sa vision.
Moi, c'est Balenda. Il y a aujourd'hui un déficit criard au niveau de l'école secondaire. Malheureusement, les pouvoirs publics ne prennent pas des décisions courageuses pour essayer, en tout cas, de régler la question du déficit en personnel enseignant. Beaucoup des écoles dans les Tirlandes, dans la Bouenza, dans la Likwala, ont fermé leurs portes parce qu'il n'y a pas d'enseignants. Même à Brazzaville, vous avez en classe de terminale première, nous avons 250 élèves en classe de terminale. Simplement parce qu'il n'y a pas d'enseignants. Alors, le gouvernement n'arrive pas à prendre ses responsabilités. Donc, moi, je pense que pour que notre pays aille de l'avant, le gouvernement devait consentir d'énormes sommes pour que notre pays aille de l'avant.
Monsieur Claudie, moi, c'est Brèche Pembe. À l'époque, l'université de Brazzaville était la lumière de l'Afrique. Mais aujourd'hui, vous fouillez sur l'Internet, même l'université Marie Ngouabi n'est pas parmi les 100 meilleures universités de l'Afrique. Ça, je vous assure. Vraiment, nous avons besoin de la conscience. Nous avons besoin des jeunes qui doivent entreprendre, qui vont créer l'emploi. B, boys and girls, listen up. You can be anything in the world, and God we trust. An architect, doctor, maybe an actress, but nothing comes easy. It takes much practice. Like I met a woman who's becoming a star. She was very beautiful, leaving people in awe. Singing songs, Lena Horne, but the younger version hung with the wrong person. Got a strong on that. Sniffing up drugs all in her nose. Could have died so young, now looks ugly and old. No fun, cause now when she reaches for hugs, people hold their breath, cause she smells of corrosion and death. Watch the company you keep and the crowd you bring, cause they came to do drugs and you came to sing. So if you're gonna be the best, I'ma tell you how. Put your hand in the air and take the vow. I know I can, I know I can, be what I wanna be, be what I wanna be. If I work hard at it, if I work hard at it, I'll be where I wanna be. Listen again. This is for grown-looking girls who's only 10. The ones who watch videos and do what they see. As cute as can be, up in the club with fake ID. Careful, for you meet a man with HIV. You can
can host a TV like Oprah Winfrey. Whatever you decide, be careful, some men be rapists, so act your age, don't pretend to be older than you are. Give yourself time to grow. You're thinking he can give you wealth, but so young boys, you can use a lot of help, you know. You're thinking life's all about smoking and ice. You don't want to be my age and can't read and write, begging different women for a place to sleep at night. Smart boys turn them in and do whatever they wish. If you believe you can achieve, then say it like this. I know I can.
I know I can.
Be what I want to be.
Be what I want to be.
If I work hard at it.
If I work hard at it.
I'll be where I want to be.
I'll be where I want to be.
Now, go. We came to this country. We were kings and queens, never porch monkeys. There was empires in Africa called Kush, Timbuktu, where every race came to get books to learn from black teachers who taught Greeks and Romans, Asian Arabs, and gave them gold. When gold was converted to money, it all changed. Money then became empowerment for Europeans. The Persian military invaded. They heard about the gold, the teachings, and everything sacred. Africa was almost robbed naked. Slavery was money, so they began making slave ships. Egypt was the place that Alexander the Great went. He wasn't shocked that the mountains were black faces. Shot up their nose to impose what basically still goes on today, you see. If the truth is told, the youth can grow. They learn to survive until they gain control. Nobody says you have to be gangsters. Read more, learn more, change the globe. Ghetto children, do your thing. Hold your head up, little man, you're a king. Young princess, when you get your wedding ring, your man is saying, she's my queen. I know I can.
I know I can.
Be what I wanna be.
Be what I wanna be.
If I work hard at it.
If I work hard at it.
I'll be where I wanna be.
I'll be where I wanna be.
I know I can.
I know I can.
Be what I wanna be.
Be what I wanna be.
If I work hard at it.
If I work hard.
Tropicale.
Une élite de tous les jours, une élite ardente et idéaliste, une élite dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances.
Couleur tropicale avec Claudicia.
Et toujours avec l'équipe et toujours à l'Institut français de Brazzaville. Demain, on vous l'a annoncé déjà en première manche, nous serons à Pointe-Noire. Nous sommes ici pour permettre à la jeunesse congolaise de s'exprimer. L'Afrique, continent d'avenir pour sa jeunesse. Vous avez probablement suivi l'intervention, la présence du président français Emmanuel Macron à Ouaga, qui s'est adressé à la jeunesse africaine. Vous avez probablement suivi également ou eu vent du président George Weah, qui lui s'est adressé à la jeunesse française. Et ça, c'est une première dans l'histoire. Pensez-vous qu'il y a là une réciprocité qui peut faire avancer les rapports entre les uns et les autres? Annabelle, de ton côté, voilà, vas-y.
Bonjour Claudie, c'est Georges, opérateur culturel. On a connu les BUD, je ne sais pas si vous avez connu BUD, c'était les grands instituteurs du Congo. J'en ai même bénéficié de la formation, j'ai fréquenté là. Mais c'est les gens comme ça qu'on a tués, donc on a exterminé. Aujourd'hui, au pool, dans le pool, on n'a pas d'école. Les Congolais aujourd'hui, c'est une génération sacrifiée, je le dis. Donc déjà, si aujourd'hui le Congo pense à l'émergence en 2025, on est proche maintenant, hein, nous sommes en 2018.
Ouais.
L'émergence, c'est d'abord dans la tête. Et déjà, la réciprocité entre George Weah, le président George Weah et Macron est très importante parce que ça va booster les gens. Mais pour booster, c'est d'abord nous, la fondation. Nous qui sommes là, en fait, d'abord la tête et puis la fondation. Aujourd'hui, le monsieur a dit ça tout à l'heure, s'il n'y a pas de l'éducation en bas, l'enseignement, le changement de mentalité, on ne pourra jamais avancer.
Prise de conscience.
Bonjour Claudia, Sarah Ibombo.
Ça y est, maintenant je suis Claudia.
Ah Claudie, désolée.
Je suis Claudia.
Je crois que c'est un bon premier pas. L'Afrique a besoin de ça, d'aller visiter un peu ce qui se passe ailleurs et essayer d'adapter les bonnes choses qui se passent ailleurs à nos réalités.
Merci beaucoup. L'idée de se parler, monsieur. Oui.
Thierry Biza, journaliste. Et donc, pour répondre à la question concernant le président George Weah qui a parlé à la jeunesse de France, sinon le président Macron qui s'est adressé à la jeunesse africaine, c'est pour simplement casser le paradigme et une façon de casser les barrières pour dire aujourd'hui le monde est devenu un village planétaire. Nous sommes tous les mêmes, on peut donc se relayer via la complémentarité. Le président Obama l'a fait quand il a été élu en tant que président, premier président noir aux États-Unis. Il a eu donc à casser les barrières.
Maintenant, métis.
Bon, métis, mais vous savez qu'il a toujours été rangé du côté des noirs.
Oui, des noirs, mais c'est une erreur. Il est métis.
Ça reste à justifier. Maintenant.
Ah non. Ah non. Non, mais je comprends. Non, mais pourquoi a-t-il raison? Parce que c'est vrai, aux États-Unis, du moment que vous n'êtes pas totalement blanc, vous êtes noir. Mais il est, et il est temps de changer les choses. Il est métis, il est les deux. Sa femme est une afro-américaine. Lui est africain par son père et américain, donc blanc par sa mère.
Aujourd'hui, il va falloir avancer. Et le bel exemple de George Weah passe aussi par le fait que c'est des présidents bien élus. Lorsqu'on a été bien élu, on est sans tâche. Il y a point naturellement de se faire une sorte d'entrave dans certains milieux.
Ouais.
On y arrive, on est respecté, on est reçu. Et quand on parle à la population, quelle qu'elle soit, quelle que soit la couche, on accepte le discours. Mais il y en a de ces chefs d'État. D'ailleurs, vous avez sur RFI Maman qui passe tout le temps avec la République du Gondwana.
Ouais.
Et vous avez le président fondateur qui naturellement ne peut pas se permettre de parler à une telle assistance. Parce que c'est plein d'intellectuels. C'est plein de gens qui sont instruits, qui sont de la génération consciente, qui ne vont pas ouvrir leurs oreilles pour l'écouter. Chez nous ici, il suffit que quelqu'un vienne avec un peu d'argent, dise « Bon, vous avez des t-shirts, je mets un coaster là, vous venez m'écouter, je raconte n'importe quoi. » Et à la fin, vous avez une bière. La jeunesse est partie. Et ça, c'est quelle jeunesse? Ça, c'est quelle jeunesse? 2000 francs, un t-shirt, vous êtes dans un coaster, vous avez 2000 francs, et ça s'arrête là. Mmh. Et on laisse quoi dans la tête de cette jeunesse? Et ça devient une véritable dépravation des mœurs, ce qui fait que nous, au niveau de la Radio Citoyenne des Jeunes, la mission, c'est de pouvoir formater donc le discours des jeunes, leur apporter l'essentiel à partir d'une nouvelle conscience et que, naturellement, nous puissions avoir une jeunesse qui regarde devant, qui soit capable de dire non aux pratiques des hommes politiques véreux. Bon vent donc à la jeunesse congolaise, certainement que nous aurons un autre regard à partir de cette émission.
Je m'appelle Elliot Ness, je suis écrivain.
Elliot Ness,
éditeur, oui.
Incorruptible.
Ah ouais.
La plus grande richesse, c'est d'abord d'être tous les jours un peu plus conscient, un peu plus riche intellectuellement, individuellement. Et c'est un travail de connaissance de soi. Vous savez, aujourd'hui, on peut tous s'engager à faire des études, des très longues études. Et avec ce qui se passe, on n'a pas tous la place ici ou là. Ce qu'il faut faire, c'est réinventer le monde et réinventer les conditions d'existence dans ce monde. Et ça, c'est un travail de réflexion philosophique carrément. C'est complètement un travail de recréation, s'il faut le dire ainsi. Parce que moi, ce que je pense, c'est que les jeunes aujourd'hui, ils n'ont pas tous envie d'aller à l'école. Il y en a d'autres qui veulent faire de la musique, d'autres veulent du cinéma, d'autres veulent de la peinture. Il y a des gens qui sont vraiment doués intérieurement pour ce genre de choses. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut emmener les gens à comprendre que le monde, l'avenir, c'est dans l'imagination.
Il ne faut pas tuer l'imagination, il ne faut pas tuer les rêves, il ne faut pas tuer les espoirs. Applaudissez-le, s'il vous plaît.
Si j'avais eu le pouvoir de Hiro Nakamura, je serais parti voir Martin Luther King après son discours lui montrer la photo de Barack Obama. J'aurais été au temple d'Harlem, poussé Malcolm de la scène avant qu'une balle atteigne. J'aurais été dans la cellule de Mandela pour lui dire tiens le coup, tes idées seront président du Sud-Africa. Amoureux de Lady Diana, j'aurais créé un gigantesque bouchon sous le pont de l'Alma. J'aurais été aux Bahamas, pas pour les vacances, mais pour vider la soute de l'avion d'Alia.
Bonjour, merci pour la parole. Je suis Désirée Minkala, journaliste de formation à l'École nationale moyenne d'administration. Pour moi, l'éducation au Congo a perdu sa crédibilité. Alors, on n'a que des diplômes sur papier. Dans la tête, il n'y a rien, rien de chez rien. Je suis le témoignage vivant de ce que je dis. C'est vrai qu'il ne faut pas parler de soi-même, mais je suis obligée de le dire. J'arrive pour la première fois en STC, à la faculté des lettres et des sciences humaines. Je valide les deux semestres. J'avais manqué 4 matières au deuxième semestre. Il fallait donc reprendre. On me demande de passer en deuxième année avec dette. Je dis non, je préfère reprendre les 4 matières. Comme ça, je passe en deuxième année et sans problème. Comme ça, je ne serai pas trop chargée. Quand je reprends les 4 matières avec le nouveau système de LMD, je me disais qu'on devrait conserver les matières que j'avais validées. Alors là, j'ai été vraiment naïve. On me dit que vous avez tout repris. Mais comment alors que j'ai validé toutes les autres matières. Et là, on me demande de donner 75 000 francs pour passer en deuxième année. Pauvre de moi, où j'aurais ces 75 000 francs? Alors j'ai changé d'idée, il fallait que je fasse un autre concours. J'ai abandonné avec la fac. Et donc, c'est vraiment pauvre, pauvre de chez pauvre.
On va donner la parole à monsieur, là, qui s'est levé. On vous écoute.
Bien, merci beaucoup. D'abord, je...
Levez-vous.
Ah, pardon.
Que l'on vous voit.
Alors, je me présente, Diaf Bikriane. Je pense que ce qu'il nous faut au Congo ou en Afrique, c'est une industrie de pensée, c'est-à-dire renforcer le côté éducationnel. Et cela, je pense, est valable, d'ailleurs, non pas seulement pour le Congo, mais pour l'Afrique tout entière.
Voilà. Merci.
Bonjour Claudie, c'est Francesca Herpou, promoteur culturel. Je pense que le président Macron a compris le potentiel de la jeunesse africaine. Il a compris que la jeunesse, c'est celle qui va remplacer les dirigeants actuels. Et il a besoin d'entretenir les relations entre la France et l'Afrique au travers de la jeunesse. Ça, c'est ce que je pense réellement. Parce qu'on constate aujourd'hui que la jeunesse a tendance à dire « on ne veut plus de la France chez nous ». Ça, c'est un langage qui revient souvent. Et je pense qu'il a compris cela. Il se dit, il faut que je crée une relation particulière avec la jeunesse africaine pour pouvoir continuer la relation entre la France et l'Afrique. Ça, c'est ce que je pense. Et concernant le président Weah, qui s'adresse à la jeunesse française, je pense que ça peut avoir un impact à partir du moment où la jeunesse française aura une certaine image de son pays. Je prends par exemple, si c'était le président de notre pays qui s'adressait à la jeunesse française, je ne pense pas que ça aurait vraiment beaucoup d'impact. Il a été footballeur, il a fréquenté quand même le milieu européen, donc il va avoir plus d'impact.
D'accord.
Par rapport à un président purement africain qui date depuis des années au pouvoir.
Et purement politique.
Voilà.
Bravo en tout cas, applaudissez là. Très fine lecture. Alors, on reste dans la même thématique, hein, l'Afrique, continent d'avenir pour sa jeunesse, et j'ai... deux questions précises à vous poser.
Bonjour Claudie.
Bonjour.
Je veux d'abord rendre hommage à cette jeunesse ici présente, une jeunesse déterminée. Sur cette jeunesse, Thomas Sankara disait, je cite, « Tu es Sankara et des milliers de Sankara naîtront ». Et moi je suis convaincu qu'ils sont nombreux dans cette salle.
Vous êtes tous des leaders, exactement ça.
Je veux plus me pencher du côté du président libérien.
Oui.
Bon, je trouve que c'est un homme qui a beaucoup fait partie de la jeunesse, parce que bon, je vous dis, moi j'ai vu le président libérien en short, excusez-moi, donc, quand il était footballeur. Donc en le voyant, je me sens plus avec quelqu'un qui... C'est comme vous, Claudie, en tout cas. Encore, malgré votre âge, je trouve que... Oui, je vous appelle Claudie parce
mais,
que...
Oui, non, Claudie, tu peux m'appeler Claudie, tu peux ouais. me dire tu, il n'y a aucun problème. Ouais. Mais déjà, j'ai eu peur parce que j'ai dit, tu ne m'as jamais vu en short, déjà. Et puis, tu m'as mis le coup de grâce en disant, malgré votre âge...
Excusez, en tout cas. Il permet aux jeunes de croire en leurs aspirations, de croire que vraiment, on peut partir du sport et être un chef d'État. Ça joue beaucoup pour nous, les jeunes, parce que la jeunesse française... est également une jeunesse du monde. De la même manière que le président Macron s'adresse à la jeunesse africaine, c'est de cette même manière que nous pouvons nous adresser à la jeunesse française. Vous regardez face à des... Moi, j'appelle ça des provocations du président Donald Trump. Il traite des pays africains et même d'autres de pays de merde. Il faut qu'aujourd'hui, les présidents africains comprennent qu'ils peuvent également s'adresser individuellement aux chefs d'État américains. Parce qu'ils sont citoyens africains, parce qu'ils sont touchés comme tout autre Africain. Vous n'avez pas besoin de vous rassembler autour de l'Union africaine. C'est une institution. Et Donald Trump n'est qu'une seule personne. On doit se gêner pour ça. C'est tout ce que j'avais à dire et merci beaucoup.
Merci beaucoup. En radio, ça s'appelle un enchaînement facile. Vous avez devancé ma question. Au moment de la dernière session à Addis Abeba de l'Union africaine, dénoncer les propos de Donald Trump, comme si finalement ces propos-là allaient plomber l'Afrique, était la grande problématique de l'Afrique, alors que nous avons une jeunesse qui aujourd'hui n'a pas de travail, une jeunesse qui souvent veut partir, une jeunesse qui reste et qui galère, n'est-ce pas? Et là, sur ce sommet-là, après ce qui s'est passé en Libye, après ce qui est perpétré encore aujourd'hui en Libye, en Algérie, après ce que nous savons de crimes contre l'humanité perpétrés, normalement cette session de l'Union africaine aurait dû être consacrée, dévolue à la jeunesse, en se posant la question, qu'allons-nous faire pour la majorité de la population africaine, qui est une population jeune?
et il ne s'est rien passé de tout cela.
Tout d'abord, je vous remercie pour la parole accordée. On m'appelle Mac Malonga, je suis en formation à IGT. Ceux qui prennent l'initiative de partir, de ne plus revenir, premièrement, peut-être, ils n'ont pas tort parce que du point de vue infrastructure, ils se disent, là-bas, ils se sentent plus à l'aise. Mais concernant les potentialités, je dirais qu'ici, il y a beaucoup plus d'atouts d'évoluer ou de produire. Pourquoi ? Parce que ceux qui vivent en Occident, ceux qui n'ont pas cette peau de couleur que nous, viennent ici en Afrique pour investir. Et il y en a de ceux qui disent, en tout cas, je ne voudrais plus repartir. C'est pour ainsi dire, nous avons cette potentialité de produire. Comme on est jeune, on a un potentiel, la vigueur. La jeunesse, vous avez des possibilités, créez, soyons des autodidactes et nous allons exceller.
Vous parliez d'atouts, mais les atouts ne sont pas forcément des opportunités. Qui veut répondre ?
Merci beaucoup Claudie. Je suis Bervelier Bruyère-Aveldi, étudiant à l'École normale supérieure. Bon, sur cette question concernant la jeunesse, je voudrais dire que la jeunesse africaine a une certaine potentialité à réussir. Pourquoi ? Je voudrais prendre l'image de ce que vous venez de dire à propos du président Macron et Georges Weah. Connaissons-nous le président Macron ? Voyons l'image qu'il a essayé de donner. Il y a 3 ans, qui pensait que Macron devrait être président de la République française ? Qui pensait qu'un jour, un président, sinon un garçon pauvre, essayant de marcher dans les ruelles de Yaoundé, jouant un peu partout, très très pauvre dans sa jeunesse, mais il a essayé de pouvoir gravir des échelons et à être le premier Africain à pouvoir gagner le Ballon d'Or. Non seulement qu'il s'arrête par là, il perd 2 fois les élections, mais il se dit, vu sa détermination, je voudrais continuer. Et il a continué. Aujourd'hui, il est le président de la République du Libéria. C'est la même chose à la jeunesse africaine, surtout la jeunesse congolaise en particulier. C'est ce que je voudrais dire. Nous pouvons faire des choses, seulement, pour faire ces choses, nous devrons changer notre mentalité, la façon de vivre, la façon de faire, et je crois que nous allons avancer. Nos dirigeants aujourd'hui ont peut-être, excusez-moi, mais c'est la vérité, une conscience qui est inconsciente. Mais nous, jeunes, nous devrons faire en sorte que ces dirigeants puissent, par notre force, se doter d'une conscience consciente qui doit conscientiser leur conscience inconsciente. Parce que ce qu'on imagine... Claudie, là, je dis, c'est la vérité.
Je te suis. Non, mais je te suis.
La conscience, c'est un peu ça.
Oui.
C'est vrai. Aujourd'hui, on entend dire que l'Afrique, continent d'avenir, l'Afrique, ils ont même le courage de passer à la télé. Le Congo, pays émergent, 2025. Les politiques doivent avoir cette morale. La jeunesse doit aller de l'avant pour que l'Afrique puisse réussir. À cela, je voudrais dire qu'ils doivent se moraliser, c'est-à-dire se doter d'une morale, morale qui moralise moralement leur morale immorale.
Merci.
Okay. Jeunes, l'Afrique est venue lors d'une révolution. Mentale sera l'évolution. L'union fait la force, mais pas qu'un slogan. La victoire sera illusoire, son reste divisé. Il y en a marre. Plus le temps de laisser le doute s'installer. En nous, en vrai, un peuple uni, y'a pas plus dangereux, même démunis, fera trembler une armée. L'art de la guerre, une révolte, un mic armé, réfléchi, loin d'une révolution à main armée. Gâchis, nourriture aguerrie pour l'esprit, enrichi, conscientisé pour éviter l'anarchie.
Bonjour Fudi.
Bonjour.
Je vis membre du cercle de réflexion ONU. Cette jeunesse, elle est forte. Sur l'intervention de M. Macron en Afrique, vous avez constaté qu'à son arrivée, il y a eu 2 jours de congé au Burkina Faso. 2 jours de congé. Alors que, en France, je ne pense pas que M. Weah a eu 2 jours de congé pour les Français.
Ce n'est pas de la faute du président Macron.
Non,
hein.
non.
Mais c'est bien de le dire.
Loin de là.
Bravo.
Loin de là.
Ouais.
C'est pour juste rebondir sur la conscience dont parler, mon frère. Ce manque de conscience qu'ont nos dirigeants. On ne refuse aucune... C'est même une opportunité qu'un président français de surcroît vienne parler à la jeunesse africaine. C'est une grande opportunité. Mais s'il vous plaît, de là à donner des jours de congé, quoi, ils vont préparer un discours à la maison. Donc, quand M. Trump nous dit pays de merde, ce que je pense, ce que nos présidents africains devraient faire, c'est de prouver que nous ne sommes pas des pays de merde. Parce que nombre de nos frères quittent ces pays que l'on traite de merde. Alors, si elles étaient aussi bonnes que ça, si ces pays étaient aussi vivables, je ne pense pas que nombre de nous seraient en train de partir.
Applaudissez-le, s'il vous plaît.
Je m'appelle Moïse Bobongo, étudiant à la faculté de droit en licence 1. J'ai un projet sur la génération consciente.
Ouais.
Et voir que mon idole, que vous êtes, a les mêmes perspectives que moi, je suis vraiment ému et je suis très content pour ça. Quelle aptitude a M. Macron envers l'Afrique? Quelle aptitude a M. Ouya envers l'Europe? Ce n'est pas parce que M. Macron est venu nous donner des discours, des belles paroles, que nous allons dire qu'il est là pour compatir à nos douleurs, qu'il est là pour faire à ce que l'éducation en Afrique puisse évoluer. Non, ce n'est pas ça. Nous devons voir quel but, quel objectif a M. Macron pour l'Afrique, quel objectif a M. Ouya pour l'Europe. On en a marre des discours, on en a marre des rencontres, tout ça, là, mais on veut aussi des actes.
Mais il faut des discours avant les actes
pour... Bien sûr.
Mais c'est vrai, attendons de voir si tout ça sera mis en place et réalisé. Donc voilà. Vous avez
et c'est
raison.
Ça qui pose problème.
Ouais. Applaudissez-le, s'il vous plaît.
C'est Flore Tiluemba, agent Netlands. Au Congo, nous avons plusieurs entrepreneurs, mais ils ont des bons projets, mais il n'y a pas de soutien. Personne ne les regarde. Leur projet est bafoué. Tu peux avoir un bon projet, mais si tu vois X qui est dans le gouvernement, lui, il voit ton projet, il constate que c'est un bon projet, il vole ton projet, il vole tes idées. Et du coup, toi, vu que tu n'as personne dans le gouvernement, tu n'as pas un père, bien un oncle, bien qui, et du coup, ton projet est perdu. Et c'est lui qui est au-dessus de ça.
La jeunesse n'a pas le sentiment d'être suffisamment accompagnée dans ses ambitions dans un pays comme le Congo. Est-ce que la culture est un facteur à la fois d'image positive, de réussite, de dynamisme pour un pays?
Je suis Béné Kodja, étudiante en économie d'organisation des entreprises et manager d'artistes. Mais il y en a des artistes qui sont très engagés, qui font de la musique engagée, qui osent dire, passer le message et qui n'ont pas peur. Donc moi, je pense qu'il faudrait aussi donner un soutien à la culture musicale. Merci.
Ouais, merci beaucoup. Je parle de la culture en général, pas uniquement de la musique. Hein.
Le problème de l'Africain fait que l'Africain est aveugle. Il ne se rend pas compte de la richesse qu'il a autour de lui. Le jeune Africain a opté pour la facilité. Il veut qu'autour de lui, son environnement puisse changer, sans pourtant que lui-même il puisse changer. Quand vous voyez Bartholomew Togo aller exposer en Europe, c'est pas du n'importe quoi. Hein. C'est un truc très, 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 très lourd.
Je suis Mademoiselle Jimmy Gloire, étudiante à la faculté de droit de l'université Marianne Gwabi. Toutes mes félicitations parce que tu as dit tout ce que je voulais dire.
Alors, ok.
Non. Je vais parler. Je vais quand même ajouter ma touche finale.
D'accord.
Alors, le jeune Africain aime se sous-estimer.
Écoutez bien.
On ne peut pas accéder au changement par des slogans. Il faut d'abord s'allier au changement. Mettre les conditions en place pour que les choses puissent changer. Donc, que chaque Africain puisse prendre conscience de ce qu'il est, du talent qu'il a, afin que les choses puissent aller de l'avant. Merci.
Merci beaucoup. Estime de soi, s'aimer.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Je m'appelle Juste Parfait, je suis humoriste comédien. Donc, ouais. La question est vraiment tout droit pour nous. Aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup d'artistes dans la salle, on ne sait même pas à quoi on sert nous-mêmes. Parce qu'on est d'abord dans un monde égoïste. Un musicien, un artiste, peu importe, du Congo, veut d'abord s'en sortir soi-même. Ce qui veut dire que l'intérêt commun, ce n'est pas trop son problème. Aujourd'hui, pour que la culture devienne quelque chose d'important pour le Congo déjà, c'est d'abord savoir l'extérioriser, la donner aux autres. Aujourd'hui, on fait des trucs où on veut les consommer que nous-mêmes. On veut avoir un art ou bien une culture, une musique, pour moi qui suis humoriste, de l'humour, des scènes qui ne font que rire. Les Congolais. Alors que pour que notre culture puisse devenir quelque chose d'intéressant, c'est qu'on doit les intéresser aux autres. Mais ça ne se fait pratiquement plus. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop le côté personnel où je fais de la musique, je fais ceci, je veux avoir une belle bagnole et puis c'est fini. Le pays, bon, les autres ne voient qu'à se débrouiller. C'est beaucoup plus dans ça que nous sommes. Alors pour que ça devienne un vrai vraie, une vraie source, excusez, une vraie source de développement, il faudrait déjà qu'il y ait un intérêt commun et général.
D'accord. Je m'appelle Arnold. C'est faux. Pourquoi ? Parce que tous les pays qui l'ont fait, la plupart du temps, ont perdu une partie de leur culture. Et je prendrai l'exemple du Nigeria, qui a d'abord misé sur lui-même avant de miser sur les autres. C'est parce que le Nigeria est fort avec ses artistes qui sont forts en local que toutes les maisons de disques de dehors viennent chez eux. Donc je pense qu'il y a d'abord un grand travail à faire en interne.
Claude, chapeau à toi. Je t'apprécie beaucoup. Chérie Lotia Mengi, amoureux de la culture et journaliste culturel à Télé Congo. Quand je veux, par exemple, à Makele Kele, il y a Madame Bill Kulani qui accompagne les jeunes vraiment dans ces œuvres-là. Mais le problème qui se pose là, les jeunes sont influencés par les hommes politiques. On n'accompagne pas les jeunes. Pourtant que les jeunes ont le talent. Voici un peu ce que je voulais épingler dans mon constat.
Bonjour, je m'appelle Paul Sarah.
Bonjour Paul Sarah.
Et justement sur la question, est-ce que la culture peut vraiment en fait apporter quelque chose de bien pour les Congolais ? Mais la question n'est pas seulement pour les Congolais, mais justement pour l'Afrique. Parce que la culture ici, c'est vrai, on en a parlé sur l'art, etc. Mais la culture n'est pas seulement la musique, l'art et tout. Mais on a également l'histoire. Parce qu'à partir de l'histoire, en fait, c'est pour ça, en fait, à partir de l'histoire, la jeunesse en fait a un repère. À partir de ce repère, il constate, il observe et a en fait réellement les approches de solutions pour se développer, pour développer cette Afrique. Tout à l'heure, Fatou a parlé en fait de cette Afrique-là en fait, qui deviendra un mixage. La culture, quand elle n'est pas seulement congolaise et qu'elle passe de, de Congo au Sénégal, ainsi que les autres pays, justement, c'est à partir en fait, de ce mixage qui n'est pas seulement pour les enfants qu'on va avoir, mais sur les échanges culturels, les échanges d'histoire, les échanges de ce qu'on aurait à collaborer avec les autres pays, qu'en réalité, nous pourrions faire à ce que l'Afrique se développe. Et justement, pour finir, on ne peut pas laisser l'Afrique se dire, se développer comme ça, sans pourtant avoir une interaction avec les autres continents. Si, tout à l'heure, le président Macron et notre Georges Weah ont pu en fait échanger avec les jeunes du Burkina Faso et de la France, c'était pour montrer qu'il n'y a pas que de la jeunesse africaine en Afrique, mais la jeunesse africaine en Europe. Donc l'interaction doit se faire et de l'Afrique et de l'Europe. Et la culture, c'est l'histoire et ce qu'on fait, que ce soit dans l'art, mais dans tout ce qui existe. C'est ce qui développera en fait l'Afrique, je pense.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. La dignité d'un peuple, c'est aussi dans la connaissance de son histoire qu'il partage avec les autres. Et c'est bien de le dire parce qu'on est à une époque où certains jeunes, une frange en tout cas peut-être extrêmement dure, voudraient une rupture totale avec le reste du monde. C'est-à-dire que l'Afrique vive en autarcie. Je ne suis pas certain que dans un monde globalisé, ce soit le meilleur chemin à emprunter. Vous n'imaginez pas à quel point les propos qui sont les vôtres. Moi, je suis très touché par ce que vous avez dit les uns et les autres, vraiment, quelles que soient vos opinions.
Génération consciente d'Afrique.
Couleur tropicale est à l'Institut français de Brazzaville et nous avons ici rencontré la jeunesse congolaise pour cet atelier Génération Consciente. Toi-même tu ? Toi-même tu ? C'est comme ça que je vous aime.
Là, il a cassé le moteur, c'est fini.